Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce début d'année. Évidemment, je ne suis pas seul, avec moi Vincent et Rémi. Salut les gars, comment allez-vous?
Yo tout le monde, bonne année à tous. Moi j'étais pas là la semaine dernière, j'en profite.
Bah ouais.
Moi mec, j'ai l'impression que je suis un peu jet lag.
Tu peux expliquer si tu veux.
Bah en fait, non mais rien à voir avec ce que je t'ai dit juste avant. En fait, la semaine dernière, il y avait le NBA Paris Game.
Oui.
Et moi, bah du coup, je suis parti à Londres. J'ai pas capté que c'était à Paris et que c'était plus à Londres. du coup, on m'a dit, mais non Rémi, c'est à Paris. Du coup, vas-y, je vais à Paris ce week-end, j'espère que je vais voir des joueurs NBA.
Le gars, il a attendu toute la semaine dernière, le jeudi soir, devant la O2 Arena. Mais il y a personne, c'est trop bizarre. Pourtant, j'ai mes places. Il est fou.
Non, je suis parti à Londres au même moment et du coup, je trouvais ça drôle de faire la gounette.
Bah ouais, on peut. Ça fait du bien, ce début d'émission. Et toi, Vince, comment ça va?
Eh bah, ça va. Moi, contrairement à Rémi, j'étais vraiment pas au NBA Paris Game. Non, je rigole. De toute façon, j'aurais pas envie d'y être parce que c'était vraiment de la grosse merde.
Ça va.
Vraiment, j'ai vraiment suivi le match de mon canapé. Ouais, mais j'ai vraiment quand même vomi deux fois avant le dernier carton. Donc,
on parle pas de vomir.
La première mi-temps du Cal Bridges,
ça se voit que du coup j'ai pas regardé le match parce que sinon.
En vrai, les gars, pour pas vous mentir, moi j'ai fait une petite pause NBA là, ça fait un mois et demi, j'étais un peu tout loin. Là, je me suis remis là cette semaine, ça fait du bien, mais je me suis un peu éloigné pendant un mois et demi, j'avoue que j'avais plus le cœur, plus trop le cœur à l'ouvrage. Mais je m'y remets.
Okay. On va se motiver, t'inquiète. Cette semaine, nous allons parler du tout neuf trade de notre cher Pascal Siakam direction les Pacers pour lui. On en parle tout de suite. On va aussi faire un petit point sur les sophomores avant de parler de quelque chose d'un peu plus tragique. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et oui les gars, hier, le mercredi 17 janvier, est arrivé le trade de Pascal Siakam, qui était l'un des derniers joueurs du titre de 2019, chez qui il y avait beaucoup de rumeurs côté Raptors. Ça y est, il a enfin un lieu de chute, puisqu'il atterrira du coup à Indiana. Je vais rappeler vite fait le trade. Donc on a Pascal Siakam qui prend la direction des Pacers. De l'autre côté, Bruce Brown, Jordan Nwora et trois premiers tours de draft qui s'envolent côté Toronto. Et il y a aussi les Pels qui ont complété ce trade en envoyant Kira Lewis à Toronto. Mais bon, c'est très anecdotique vu qu'il n'a quasiment pas joué de la saison.
Je crois que c'était un trade qu'Indiana possédait déjà, non? Il n'y a pas un truc comme ça?
Non, il a été envoyé des Pels. Alors, je n'ai pas cette info, si jamais il y avait quelque chose de droit. Ça se trouve, c'est un mec de G-League, je ne sais pas. J'en sais rien. Aucune idée.
Ouais, je sais pas trop, je suis pas trop sûr. Moi, j'ai trouvé que le trade était très cool. Je suis trop content.
Pour les deux parties?
Ouais, de ouf.
Vas-y, bah, tu peux nous expliquer. En tant que fan de Toronto, tu peux nous expliquer un peu ce que tu
as aimé. Déjà, ça fait un bon moment que Pascal, on sentait qu'il allait devoir partir. Du coup, ouais, grave content que Pascal Siakam, il parte enfin. Toronto, ils vont pouvoir commencer leur vraie reconstruction avec que des jeunes. Ils récupèrent plein de tours de draft. Donc, dans les années futures, ils vont pouvoir entourer Scotty Barnes parce que je pense que le vrai projet, c'est à Scotty et tu l'entoures bien comme il faut et go pour aller en playoff. Parce qu'il y a un vrai projet à faire autour de Scotty Barnes, je pense. Et pour Pascal, c'est cool. Là, il n'est pas dans une équipe qui est réellement contender, mais avec les mecs qu'il y a autour, Pascal rend l'équipe contender. Ils sont pas du tout favoris pour le titre ou autre. Mais par contre, là, pour n'importe quelle équipe à l'Est, vas-y, c'est roulou tomber contre Indiana en playoff. Parce que Tyrese Haliburton, il peut te faire mal. Pascal Siakam, il peut à peu près tout faire. Enfin, il peut défendre sur pas mal de postes. En attaque, il est polyvalent, il peut shooter, il peut attaquer au panier. Enfin bref, il peut faire beaucoup de choses. La raquette avec Miles Turner, moi perso, tant que Miles Turner est là, j'aime bien. Et en plus, t'as Buddy sur le banc qui peut dégainer. L'équipe est dangereuse. Du coup, j'aime beaucoup côté Indiana, j'aime beaucoup côté Toronto. Je trouve que c'est vraiment top.
Et toi, Vince, t'en penses quoi un peu?
Alors, moi, je pense que c'est surtout une bonne nouvelle pour Indiana parce que ça va ramener aussi le côté défensif qui manquait, je trouve, un peu à Indiana. Ouais. On voit Indiana, ça gagne des matchs, mais quand ça gagne des matchs, ils mettent 140 points, ils mettent 120 points. En général, c'est plutôt des matchs d'attaque. Là, il va réussir à amener un peu ce côté défensif parce que forcément, je pense qu'il aura des minutes. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ça va amener un côté défensif. Et je pense que c'est hyper intéressant. Après, comme tu l'as dit, Toronto, c'est en reconstruction. Je pense que Siakam, il n'était plus forcément dans le projet. Pour moi, déjà, en fait, à partir du moment où ils ont drafté Scottie Barnes, pour moi, ils commençaient déjà à exclure un peu Siakam du projet.
L'idée était là, ça fait un moment que.
En fait, c'est ça le truc, c'est que. Voilà, Siakam, je pense que c'était. Les Raptors ont plus pensé à avoir Siakam comme mode d'échange pour quelque chose que. Autre chose.
Donc, je vois ce que tu veux dire. Je vous rejoins là-dessus. Oui, vas-y.
Pour compléter pour le trade, pour ceux qui n'ont pas tous les impôts, Bruce Brown, je crois qu'il est free agent cet été, si je dis pas de bêtises. Et il y aurait les Knicks qui seraient potentiellement intéressés. Il l'avait déjà contacté l'année dernière. Et donc, il y a de grandes chances que les Knicks récupère Bruce Brown soit à la free agency, soit via un autre trade encore Knicks-Toronto pour récupérer Bruce Brown. C'est pas impossible.
Yes,
enfin, l'idée de Toronto, c'est peut-être pas de garder Bruce Brown. Quoi. C'est,
pense pas,
c'est vraiment un peu stylé au cas ici. Tu récupères du tour de draft, on a Scotty, vas-y, viens, et dans les 3 ans, on l'entoure comme Jaja. Je pense que c'est l'idée.
Ouais, c'est pas impossible.
Complètement sur ce que vous avez dit. Moi, j'aime bien l'idée de stabilité, comme l'a dit Vincent, notamment défensif. Je pense que ça va faire un gros impact parce que du coup, Indiana. Pour l'instant, sur cette saison, c'est la 26e défense de la Ligue. A contrario, comme vous l'avez dit, c'est la meilleure attaque. Parce que, offensivement, ils sont trop forts. On a oublié de mentionner Mathurin qui sort du banc et qui fait un chantier monstre. Parce que tu as parlé de Buddy Hield, mais c'est vraiment sérieux côté Indiana.
Ouais,
cette
mais année. C'est que Mathurin, il était intransférable, il comptait pas le bouger, tandis que Buddy Hield.
Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, vraiment content. Après, ce qui me fait peur, c'est que c'est plus ou moins un one shot entre guillemets, puisque du coup notre cher Pascal Siakam est free agent cet été. Donc là, il prend 37 millions sur la saison. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir le prolonger ou tenter justement un petit one shot pour garder
une
flexibilité ?
Indiana s'est positionné en disant comme quoi il comptait et il pensait pouvoir le prolonger cet été. Et je crois qu'il y a Siakam qui a mis un tweet, je ne sais plus ce qu'il a dit, pour faire comprendre comme quoi il n'était pas contre l'idée de rester Indiana. Je pense que ça va dépendre comment ça va se passer pendant les 4 prochains mois. Yep. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, j'ai trop hâte de voir le duo avec Haliburton. Ouais, et si ça se passe bien, je pense que ça prolonge.
Moi, perso, je le vois bien évoluer dans ce genre de groupe. Il a l'expérience autour de ces jeunes-là. Et pour le coup, ça peut être un vrai apport. Moi, j'ai une question, du coup, parce que tu perds Bruce Brown, qui a été ton poste 2 titulaire sur toute la saison. Alors, comment vous organisez votre 5 de départ ou votre 5 de fin de match ? À la main, il n'y a pas de question. À Liberton, quand il n'est pas blessé.
Donc poste 2. Bénédicte Mathurin en début de match.
Tu l'as fait souvent sortir du banc pour un rendement vraiment important. Est-ce que ça vaut le coup de changer cette dynamique ? Je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être autre chose à vous proposer. Sachant que poste 3, tu as Aaron Naismith. Est-ce que, du coup, tu fais une raquette Siakam-Turner ?
Ouais.
Ou, sinon, j'ai une variante. Tu gardes cette raquette. Ou alors, tu mets Siakam en 3 et tu titularises Obi Toppin au poste 4.
Non.
Les trois grands, ils peuvent shooter.
Je pense que tu peux.
Oh, Obi Toppin, moi je laisse pas tout shooter. Hein.
Non, mais en fait, tu peux faire ça. Je pense que tu peux faire ça dans des matchs, sur des certaines line-up, mettre ce que tu proposes, mais pas forcément dans un 5 majeur tout le temps. En fait, ça dépendra aussi en fonction. Mais par contre, je pense que c'est pas incohérent d'avoir ce 5-là à des moments sur des matchs. Parce que déjà t'es très grand, tu défends, t'es athlétique, donc tu peux quand même contrôler ton rebond, courir, et au final ça te permet quand même de pouvoir jouer avec des mecs qui peuvent quand même mettre dedans, parce que Miles Turner c'est un poste 5, mais il est quand même capable de s'écarter, mettre quelques shoots. Obi Toppin c'est pas sa grosse qualité, mais il peut quand même le faire. Siakam aussi, c'est pas leur qualité principale, mais c'est des joueurs qui peuvent mettre de tir. Ouais, tout à fait.
À choisir, tu vois, je préfère encore avoir Obi Toppin en 3 et Siakam en 4 si on garde les mêmes joueurs en titulaire.
Ouais.
À choisir, je préfère avoir Toppin en 3.
Après,
plus polyvalent.
Après, ce qui est aussi bien avec.
Siakam, il est trop fort sous le panier. Hein.
Avec un 5 comme ça, en fait, l'avantage aussi défensivement, c'est qu'en fait, tu peux switcher sur tout quasiment.
Bah justement, c'était en fait, tu te retrouves avec un Toronto en fait. De l'année dernière, genre.
Entre et guillemets. Du coup, c'est
avec que des 6'8".
C'est ça. Que des mecs de 2m5 et en fait, bah tu peux tout hyper athlétique et en fait, tu peux tout switcher. Et je trouve ce profil assez intéressant. Après, sinon, depuis l'absence de Tyrese, depuis sa petite blessure, il y a le jeune Andrew Nembhard, sa deuxième année en NBA, qui a été titularisé en tant que guard. Donc ça se trouve, ce poste 2, ça peut être ce jeune-là aussi, en laissant Mathurin sur le banc, du coup.
Moi, j'aimerais bien voir Mathurin être davantage responsabilisé. Et laisser Buddy sur le banc pour dégainer en seconde unité.
Mathurin finit tous les matchs, hein. Gros, il est responsabilisé. Hein.
Ouais, mais vas-y, mets le titulaire et à voir si on le laisse. Enfin, pourquoi pas le laisser en fin de match aussi, ça me va très bien. Mais ouais, j'aimerais bien le voir davantage titulaire et davantage sur devant de la scène.
Ça va arriver.
Ouais, je pense que oui, mais du coup, c'est peut-être l'occasion du coup.
Surtout quand t'as un mec comme Haliburton qui est ta star, mais qui n'est pas une star qui va scorer de ouf parce qu'il met 20 points par match, donc voilà. Mais par contre, il est aussi, meilleur passeur. Mais il est aussi meilleur passeur de la ligue et il est à 13 passes de moyenne, quoi. Donc c'est aussi ça l'avantage d'Indiana, en fait, c'est que ta star, elle prend pas toute la place. Et en fait, du coup, ça permet à d'autres joueurs de pouvoir se montrer, en fait, aussi.
Par contre, sur les postes arrière, défensivement, ils perdent. Parce que quand tu perds Bruce Brown, ça fait mal, quand même.
Ça, on est d'accord. Mais après, Siakam, c'est...
Non, Siakam, c'est très bon. Pour la raquette, c'est top. Ça, c'est top.
À voir ce que ça va donner.
L'équipe est plus polyvalente, hein, c'est plus complémentaire et tout. Hein.
Ouais.
Ah bah, le pick and roll Haliburton Siakam, il va être trop bien.
Hein. Ah oui, clairement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Il y a même sur un point qui est intéressant, c'est que par rapport à tes concurrents directs sur la conférence Est, donc bah, t'as le Magic cette année, t'as Miami que je rangerai dans cette classe-là, t'as New York qui a fait un petit step, mais pour l'instant en soi, c'est ce genre de range d'équipe. Bah là, avec ce trade de Siakam, tu... Oui, Vincent, fais pas la grimace. Oui, New York n'est pas premier à l'Est.
Non, c'est quand même un petit
mais
peu...
Mais tu vois, même je peux même inclure...
On a le meilleur meneur de la conférence Est.
Non.
Ça se discute
trop fort. Ah non, le meilleur meneur de la conférence, mec, il joue à Indiana.
Ça se discute trop fort. Ah non, je suis pas d'accord. Bah moi, ça se discute de ouf. Ça se discute.
En tout cas, je trouve que face à tes concurrents directs, tu as pris un vrai step pour les playoffs et potentiellement là sur cette fin de conférence Est, où en fait cette fin de saison régulière, tu peux vite prendre des places rapidement, en fait, ça se trouve. Et si tu corriges ta défense, sachant que tu as la meilleure attaque, sachant que je pense pas que tu perdes vraiment cette fibre-là. Parce que le maître à jouer, ça reste le même. Bah, Bruce Brown pouvait avoir un peu plus de spacing et était plus régulier peut-être que les jeunes. Donc, tu avais cette assurance-là sur le poste 2. Après, tu perds ça.
Ouais, c'est sûr. Mais vas-y, Siakam, il te ramène des écrans.
Je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord.
Enfin, il apporte trop de possibilités, moi, je trouve.
Donc, ce sera une autre manière de jouer, mais ça me fait pas peur pour Tyrese. Et sinon, voilà, je trouve que c'est bien pour Indiana. Toronto, ils entament leur reconstruction. Ils reprennent direct des assets. Donc, c'est vraiment bien. Je pense que la transition, ça se trouve, en fait, bah, dans 4 ans, vu que t'as déjà ton franchise player, ça peut aller vite, en fait, côté Toronto, sachant que tu peux faire de la place aussi dans ton cap, même si c'est pas forcément une destination de choix pour les agents libres. Mais non, ça reste intéressant. Oui, Rémi.
Et en plus, Toronto, pour leur construction, là, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Et en plus, l'arrivée de Jarjé Barrett, je m'attendais pas à ça, mais... Oh, c'est pas mal, hein.
Ah bah, il performe.
Au Canada, les mecs.
Il est à la maison.
Il est chez lui, hein.
Moi, j'ai une petite question pour toi, Vincent. Est-ce que le fait d'avoir un vrai coach, tu penses, ça change?
Est-ce qu'on peut dire pareil avec Quickly, hein? Parce que Quickly, il a l'air de s'éclater, hein, pour l'instant.
Ouais.
Ah bah oui, non, mais c'est sûr que...
Après, alors, ça fait mal.
Après, pour le coup, Barrett, il avait des minutes, il avait des responsabilités et tout.
Oui, non, bien sûr.
Donc en vrai, à la limite, tu me dis ça pour Quickly, parce que du coup, des fois, il était très mal coaché. Pour Barrett, des fois, justement, il était très mal coaché parce qu'il jouait trop.
Moi, je pense que ça va être libérateur pour Barrett, parce que t'as pas la pression du Madison Square Garden.
Ouais. Exactement. Et t'es chez toi, t'es dans ton pays.
Dans une équipe qui joue rien, entre guillemets. Mm. Tandis que New York, ça fait 4-5 ans que vas-y, il faut qu'on aille le plus loin possible. Là, Toronto, ils sont en mode, les gars, si on y va, c'est bien. Si on n'y va pas, on verra.
Ouais, c'est ça.
Donc, t'as moins l'impression, t'es plus libéré et tout. Ça aide.
Yep. Vous voulez rajouter j'aime beaucoup autre chose le trade. Sur ce trade? Ouais, bah forcément.
Moi, j'aime beaucoup le trade. Je vais pas mentir, j'aurais peut-être davantage kiffé voir Siakam à Dallas.
Ouais, mais plus compliqué à échanger, je pense.
Oui, parce que sans doute. Mais Dallas, j'avoue, j'aurais kiffé.
Je pense pas qu'ils aient encore beaucoup de picks. Ils avaient moins d'assets qu'Indiana, par exemple.
Ah oui, bah ça, c'est sûr. Mais Indiana, j'étais déjà bien fan. Là, je le suis encore plus. Enfin, j'ai trop hâte d'avoir.
Ouais, carrément. Carrément. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça lance un peu la free agency. Ouais, la trade deadline, pardon. N'importe quoi, la free agency, c'est l'été. Mais ça met en jambe tout le monde pour la trade deadline. Et surtout, bah, les équipes autour et les concurrents directs d'Indiana, notamment, vont devoir s'adapter et faire des moves pour essayer d'équilibrer tout ça. Donc ça peut mettre feu, en fait, dès cette mi-janvier. Ça peut nous prévoir un mois de folie avant la fermeture, quoi. Donc pour le coup, ouais, ça, c'est super. C'est pas mal du tout que ce trade ait eu lieu. Vincent, c'est bon pour toi sur ce trade?
Ouais, j'ai une dernière question, moi, les gars.
Dis-nous.
Est-ce que côté Indiana, Siakam, c'est pas le seul joueur qui a un peu d'expérience en playoff?
Parce qu'il y avait Bruce Brown, donc oui, c'est le seul.
Ouais, mais Buddy. Du coup, il est plus là.
Bah,
ouais.
C'est ce que je dis. Ouais. Il y a Buddy. Buddy, ouais. Il a joué en playoff pas mal, non?
TJ McConnell aussi, un peu.
Ouais, McConnell.
Ouais, mais jamais des mecs qui ont été bien, bien loin. Hein.
Non, voilà, ça fait du deuxième tour.
Ouais, y a...
c'est
Siakam qui a vraiment le plus d'XP et qui peut un peu former les jeunes là-dessus.
Ouais. Bah, je pense que c'était aussi ça le but d'Indiana, hein. C'était de récupérer un mec qui avait un peu d'expérience dans playoff aussi.
Très malin.
Ouais. Yep.
Plutôt malin de la part des Pacers.
Eh bien, c'est un très beau move. Les gars, je pense qu'on va clôturer sur ce dossier-là. On va passer sur nos sophomores. Les petits jeunes qui sont dans leur deuxième année, qu'on fasse un petit point quand même. On va se faire un ping-pong, on peut parler de chacun d'un sophomore qui vous fait kiffer. Moi perso, ça va être Kingan Murray, qui joue donc à Sacramento, titulaire tous les jours. C'est surtout un rôle où on pensait peut-être pas forcément qu'il allait avoir cet impact-là dès sa deuxième année, enfin déjà dès sa première saison. Mais quel shooter, le gars qui est capable de faire un 7 sur 8 à 3 points dans un match. Il défend bien, il apporte beaucoup de spacing, il sait courir. Alors, c'est pas le plus athlétique des joueurs, mais en revanche, il a une volonté forcément de jouer rapidement, parce que bah, tu joues à Sacramento et il faut suivre ton meneur Fox. Donc, je trouve que c'est un joueur qui aura vraiment de l'avenir dans cette ligue et ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse toute sa carrière là-bas et qu'il y reste pendant un bon moment. Donc, pour le coup, Kingan Murray, c'est sur poste 3-4, plus 4 quand même, très intéressant.
Ouais, très top, je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup aussi le profil. Vas-y, moi j'enchaîne. Moi j'adore Jalen Williams, côté OKC. Je pense que cette année, tout le monde kiffe OKC de façon de manière générale.
Oui.
Et Jalen Williams, je suis trop fan. Saison rookie déjà très bonne. Il n'était pas tellement dans la discussion de rookie de l'année, mais on parlait quand même de lui parce qu'il est quand même un très bon rookie. Et là, pour sa saison sophomore, il est à 19 points, 4 bons, pas loin de 5 passes, enfin 4 passes et demi, avec des pourcentages plus que corrects, très propres, il n'y a pas tellement d'erreurs et tout. J'adore le profil. Là, côté OKC, ils ont plein de profils qui sont ultra jeunes. On va reparler de Chet, je pense. Vous en avez parlé déjà la semaine dernière quand vous avez parlé de Victor. Ouais. Pareil, c'est un jeune excellent. En bref, ils ont plein de jeunes qui sont extraordinaires. Et Jalen Williams en fait partie. Ouais, moins sous la lumière, mais trop fort.
Ouais, mais trop indispensable. Il me fait penser à... Tu vois, sur son côté polyvalent, il me fait penser à Iguodala.
Ouais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ouais, parce que c'est... Et puis c'est un...
Tu te montres pas, tu touches à tout.
Et puis ouais, c'est ça. C'est plus un poste 4, mais pas très très grand, tu vois, qui peut défendre, qui va... Ouais, c'est...
Je le vois plus poste 3, moi, quand même. Hein.
Ouais,
c'est un poste 3, parce qu'il est petit.
Il y a des moments où il joue poste 4, hein, je te l'assure. Hein. Moins cette année depuis qu'il y a Chet. Moins cette année depuis qu'il y a Chet. Mais l'année dernière, il jouait pas mal de fois.
C'est vrai que l'année dernière.
Parce que c'est pareil. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, c'est pareil. Il est aussi dans une équipe de OKC qui marche du feu de Dieu. Donc, ça aide aussi à... Et moi, j'adore parce qu'il joue avec deux chaussures différentes. C'est trop stylé. Bref.
C'était le point style de Christina Cordula.
C'est vrai. Il fait des mismatchs. Il fait des mismatchs de chaussures. C'est trop d'art. J'adore ça. Bref. Moi, je parle de... Enfin, moi, je vais... Ah, parce que...
Vas-y,
enchaîne. Un petit banquero, mais là, je vais faire plaisir à Rémi, je vais parler de son petit poulain Shaedon Sharpe. qui, pareil, qui a... Bon, alors, il est dans une équipe de Portland qui n'est pas... Bah, c'est pas fou, pour le coup. Mais,
voilà. C'est une équipe NBA, ça ?
Ça, c'est méchant. Mais par contre, au niveau des statistiques, il a augmenté. Il est presque à 6... Il met 6 points de plus. Enfin, c'est quand même... Là, il a glow-up dans le jeu. Il est plus important dans le jeu et ça devient vraiment un joueur important à Portland, même si l'équipe, c'est un peu cata. Lui, individuellement, il tient son rang et on voit qu'il a progressé déjà depuis l'année dernière. Après, en plus de ça, à regarder jouer, il est vraiment kiffant parce que déjà, explosivité, enfin bref, c'est... C'est une machine à highlight, il est smooth, donc c'est kiffant et pour le coup, il fait plutôt une bonne saison pour le moment.
Ouais, j'aime bien, moi, ce côté... très léger sur le terrain, t'as l'impression qu'il flotte et en fait en deux appuis ouais.
il décolle à 3 mètres de haut.
Il décolle à 3 mètres et ça pour le coup c'est hyper spectaculaire et comme vous le dites c'est une machine à highlight. Après il faut que ça se traduise plus tard dans sa carrière peut-être comme quelque chose de positif en termes de résultats collectifs joueurs hyper forts qui ont été ce genre de mec à dunker partout etc et mais qui ont eu du mal à se lancer. Je pense notamment à du Aaron Gordon. Il a fallu qu'il aille à Denver pour devenir un joueur respecté, alors que c'était un joueur hyper spectaculaire. Zach LaVine aussi, quand il était aux Wolves. Ça, hein.
Bah, même toujours aux Wolves.
Non, mais je parle de quand il était jeune. Avant d'être considéré comme une superstar et de choper des contrats max, au début, il a quand même été assez décrié pour son manque de leadership et de capacité pour aller gagner des matchs, quoi. Même s'il mettait beaucoup de points. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, j'aime bien Jabari Smith Jr. à Houston. J'aime bien ce qu'il fait.
Moi, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. Je m'attendais à mieux.
Et bah, justement, c'est là où moi, j'en attendais rien, donc je suis pas déçu. si tu veux.
Ouais, c'est pas bon.
Donc, Jabari Smith, ce que j'aime bien, c'est qu'il est... Il fait pas de bruit. Il avance à son rythme. Et en attendant, bah, il enchaîne les matchs. Et côté Houston, cette année, ça a bien démarré. C'est aussi grâce à ce qu'il a pu apporter et à son spacing. Il est capable de shooter. Il est très bon sur la ligne des lancers. Enfin, c'est un très bon joueur. Un très bon pivot. Moderne. Capable de faire des petits shoots et tout. Donc, pour le coup, ça reste un joueur que je trouve capable d'évoluer dans le futur. Et de peut-être devenir le joueur que Rémi voudrait qu'il soit. Mais pour l'instant, sur une deuxième saison, on a vu pire comme démarrage. Alors certes, les attentes étaient peut-être un peu plus hautes dues à sa position dans la draft, mais non, moi j'aime bien. Ça reste un profil intéressant.
Je comprends, mais ouais, j'avoue, j'en attends un peu plus de sa part. Alperen Sengun prend toute la lumière, et je pense que Jabari Smith, vas-y, pour apporter un truc un peu avec lui. Parce que du coup, il pourrait avoir une raquette vraiment pas mal, et pour un top 2 de draft, je trouve que c'est un peu léger.
Ouais, après, justement, je pense qu'il est un peu aussi dans l'ombre de Sengun, en fait. Donc, du coup, c'est compliqué de s'exprimer à côté de lui qui est vraiment fort en ce moment.
Et qui touche à tout, en plus. Vous en avez d'autres, les gars ?
On peut peut-être parler de Paolo.
Ouais, faut parler même. De Paolo, ouais.
En vrai, parce que je pense que...
C'est celui qu'on aurait pu évoquer en premier, mais...
Ouais, mais il vaut mieux l'évoquer en dernier, justement. Il n'est pas numéro 1 de draft pour rien, quoi. Il montre que voilà... que c'est lui le patron du Magic, le Magic qui est plutôt bon cette année, qui fait kiffer à regarder jouer. Donc bah voilà, le patron c'est lui. Il a vraiment l'âme d'un franchise player. Il a un peu non mais c'est un franchise player, on va pas se mentir. Et pour le coup, il a un peu un style à la... Alors, j'extrapole, mais à la LeBron, un mec
Chatou.
Vraiment, vraiment costaud... qui est capable un peu de tout faire sur le terrain et franchement, s'il continue comme ça, il aura une carrière longue et en espérant qu'il n'ait pas de blessure machin, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher et il joue beaucoup de matchs, il joue tous les matchs quasiment, enfin, il joue tous les matchs, je crois.
Bah oui, dès qu'il n'a pas de soucis de pépins, de musculaire.
Donc voilà, il a 23 points par match, enfin, c'est...
7 rebonds, 5 passes.
7 rebonds, 5 passes, bah, c'est propre, hein.
Il est dans la lignée des, ouais, comme tu dis, des LeBron, des Paul George, Kawhi...
C'est ça. Exactement.
Kawhi, c'était pas ce genre de joueur quand
tu... Non, quand il a commencé, non, mais tu vois, aujourd'hui, c'est le genre de mec qui peut te planter 25 points, 7 rebonds, 5 passes tout le temps. Bah, Banquero, il est dans la même lignée. C'est ce type de joueur, quoi.
Yes, je suis d'accord. Moi, c'est là où je voudrais qu'il...
Pas élite,
là
où je...
Oui, c'est pas du tout élite, mais il y a des efforts.
Il y a des bah, et puis c'est pareil, avec le gabarit qu'il a, il va pouvoir défendre en fait. Donc ouais. Que là, il, enfin, il oui, se rendra compte que de toute façon, si tu veux gagner, il faut défendre.
C'est sûr. Moi, ce qui... le seul bémol qu'il a, c'est sa réussite au lancer. Je trouve qu'il faut qu'il fasse beaucoup mieux. Mm. Il est à peine à 70%.
Il a dit qu'il était comme les Browns, Vincent.
Bah, oui, mais du coup, c'est pas 50%, c'est 70%, donc c'est mieux. mais en revanche, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il continue à aller charbonner et à aller provoquer les fautes. Donc ça pourrait être un joueur qui se retient pour pas aller sur la ligne et pas se ridiculiser. Au contraire, continue à charbonner. Il en prend quasiment 8 des lancers francs par match. Donc ça reste intéressant. Et bah, en attendant, il pèse aussi sur les défenses adverses en ayant provoqué ces fautes-là. Donc ça reste intéressant. Faut juste augmenter ce pourcentage de lancers. C'est tout. Pour devenir vraiment... Et en fait, ça se trouve, bah, tu passes à 24 points sans forcer, en fait, si juste tu mets un peu plus de lancers, quoi.
Mmh. Ouais, clairement.
Tout à fait.
Voilà, voilà.
Puis en plus, ça fait chier quand même quand t'as un poste extérieur au lancer.
Ouais, c'est un peu chiant. Hein. Du coup, transition toute trouvée, vu qu'on parlait de LeBron James. J'ai une petite stat de zinzin sur LeBron James quand même. Non, mais attends, écoute bien la stat.
LeBron James, que des fanpages sur son Twitter, gros, c'est que des fanpages de LeBron.
Non, mais c'est tellement ça. LeBron James, l'épisode de la semaine dernière, quand il commence à parler de LeBron, ça a duré une demi-heure. J'ai fait, c'est bon.
Allez, écoute bien. LeBron James a joué contre 35% de tous les joueurs NBA de l'histoire.
Ouais, j'ai vu
c'est ça. Pas une dinguerie cette stat.
Ouais. En même temps, mec, il est là depuis les années 60.
Peut-être, mais c'est une dinguerie. La stat est une dinguerie, c'est n'importe
quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est ouf.
Ouais, c'est ouf. Du coup, je voulais juste donner la stat parce que je trouve ça n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi.
Tu lui donnes ça, mais on n'a pas fini sur les sophomores, là. Que tu coupes tout.
Mais si.
Mais c'est LeBron qui est sophomore parce qu'il est dans sa 20e saison.
Et qu'il a un corps d'un mec de 22 ans. Donc forcément, il est sophomore. Moi je voulais juste qu'on s'attarde vite fait, du coup on a parlé de Mathurin juste avant à Indiana, ah oui. Qui a un rôle de 6e homme qui est hyper intéressant avec ses 15 points de moyenne et surtout bah, des très bons pourcentages hein, 38% à 3 points, 46% au tir global, il apporte de tout, il est capable de défendre, alors c'est pas son skill principal, mais je pense que tu vois, aux côtés d'un mec comme Siakam, il peut vachement progresser parce qu'il a les attributs physiques pour. Il est athlétique, ouais, il peut se donner plus, donc ça va être un point à progresser pour lui. Donc plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans cette draft? Moi, tu vois, un gars qui me déçoit, c'est la saison de Jérémy Sohan.
Ouais,
vas-y, mais en même temps, quelle idée de Popovic de le mettre meneur?
Ah, mais ça, c'est les idées de Pop, on s'en fout. Ça, bah faut oui, respecter, mais du coup, faut respecter.
Mais du coup, ça ne l'aide pas.
Mais du ça coup, idée de merde. En fait.
Bah oui, vraiment. C'est tout sauf un meneur. Déjà, le mec, il s'est pas shooté, déjà. Il shoot ses lancers à une main. Hein. Mais déjà, ça, tu vomis, déjà, quand tu regardes les Spurs, en fait. T'es...
J'en attendais
pas. Il y a un sophomore que j'aime bien. Ah, désolé. Ouais.
Non, bah voilà, je voulais juste dire que je suis déçu parce qu'on en attendait plus de son rôle. Et même si tu le fais pas jouer meneur, bah en fait, c'est plus compliqué que ça, en fait. Et je pense que il est pas dans la bonne équipe aux côtés de Victor, je pense.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Moi, il y a un autre sophomore que j'aime bien, mais dans une équipe de merde, c'est Jalen Duren à Détroit.
Bah ouais.
Intéressant. Parce que aussi. Le mec, il a un côté, il a un profil un peu. J'ai pas envie de trop exagérer, mais il a un profil un peu à la Dwight Howard, tu vois. Le mec est ultra costaud.
Bah, en
il
comparaison,
s'est pas shooté à plus de 3 mètres, mais par contre, sous le panier, vas-y, j'ai pas envie d'avoir à faire lui.
Tu plisses un peu les yeux, c'est Drummond Prime, mec. En plus, c'est à Détroit, gros.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu rigoles,
ouais, c'est un aspirateur
tu rigoles mais Drummond, quand
non, mais ouais, y a de l'idée,
ses
ouais.
Premières
aspirateur
saisons...
Aspirateur rebond et tu sais rien faire
avec Drummond du panier. Drummond Prime, c'est 18 rebonds par match. Hein.
Ouais, c'est pas 25, d'ailleurs.
Non mais en moyenne sur une saison, je crois il a fait une saison à 18 rebonds par match, je crois.
Ouais, mais Drummond
c'était sale. Non mais c'était sale. Ah bah c'est Dyson le mec hein.
Ouais.
Ah bah le mec il a des parts de marché hein, chez là-bas. Hein. Direct ils sont réfléchis, ils ont dit Drummond, tu fais pub égérie Dyson. Allez hop, c'est parti.
Oh, ce serait incroyable une pub avec Drummond.
Ça serait trop drôle. Bon, ils ont bien fait une pub avec Mutombo qui met des stops au mec qui veut mettre des poppies dans les poubelles hein, donc
ouais, c'est vrai.
Ils pourraient très bien faire une pub Dyson avec Drummond. Hein.
En tout cas, pour en revenir à Jalen
Duren. Jalen Duren, il a un côté un peu comme ça, mais en plus costaud que Drummond. Enfin, Drummond est carré, tu vois, mais Jalen Duren, il est plus athlétique, je trouve.
Plus élancé.
Oui, il est plus athlétique. Mm. Drummond, il était un peu pâteau. Enfin, il faisait un peu...
Ouais, il est toujours pâteau, hein, t'inquiète.
C'est pour ça que je le compare un peu à la Dwight Howard. Parce que tu vois, il est dessiné, il est... Ouais. Bon, pas autant que Dwight Howard, parce que vas-y, on n'a pas croisé tant que ça des mecs comme ça.
Bah Dwight Howard, déjà...
Mais tu vois l'idée, quoi.
Dwight Howard, c'était vraiment trop drôle. Il avait des épaules, le mec, il pouvait pas tirer les lancers comme ça. Il avait des trop grosses épaules. Il pouvait pas tirer les lancers, mec. Il pouvait juste
fouetter. Il pouvait pas se gratter les cheveux parce qu'il avait l'épaule qui bloquait.
Ah bah non, c'est impossible. Ah bah c'est horrible. C'est pour ça qu'il se laissait pousser, long un moment. Sinon, il se grattait pas les veuches, mec.
Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, messieurs, sur les sophomores?
Dans les sophomores, je crois que c'est tout.
Non, on en a pas on a cité pas mal, je pense.
Ouais. Je suis en train de regarder la liste. Il y a Jaden Ivey aussi, c'était pas mal, mais bon, j'ai pas Enfin, c'est bien. Ouais.
Il joue à Détroit, quoi, c'est compliqué. Pareil pour Mark Williams à Charlotte qui est intéressant au poste 5.
Ouais, c'est ça, mais.
Mais il joue à Charlotte, donc c'est l'enfer. En plus, ils n'ont pas eu la mélo pendant un moment, donc voilà.
Si, il y a Terry Eason, c'est bien. Terry Eason, c'est très bien aussi ce qu'il fait.
Oui, c'est clair, il y a Eason. C'est vrai.
Et à part ça, derrière. Derrière, si, bah, y a Christian Braun, on a parlé quand il était rookie côté Denver, mais après.
Il n'y a pas de fulgurance, mais vraiment role-player 9e, 10e homme. Quoi, donc,
Bah, tu lui donnes 15 minutes, il fait le taf.
Ouais, il va se donner. Il est en play-off, il avait eu des minutes l'année dernière avec les champions en titre. Donc, non, ça reste quand même, un joueur intéressant.
C'est quand même le seul sophomore qui a une bague.
Bah, dans ces groupes-là, oui, je pense qu'il n'y a que lui. Oui. Pour le coup, la stat n'est pas compliquée à vérifier, je pense. Il y a peut-être un autre sophomore de Denver, peut-être, qui traîne par là. Mais
Dans le second tour, ouais, peut-être, je sais pas.
Mais bon.
S'ils jouent pas,
ils n'ont pas de bague.
Ouais, ils pas dans le groupe.
T'imagines, mec, si tu joues pas une minute en playoff, t'as pas la bague. Ce serait énorme. Ça veut dire que
non,
comment il s'appelle ça voudrait dire que Tupan, il n'aurait pas de bague.
Ouais, c'est vrai. Ça voudrait dire que DJ Mbenga, il a pas de bague.
Ouais. Pas faux.
C'est-à-dire que Fournier, il aurait pas de bague, c'est les Nixies. Alors qu'il est payé 20 millions.
En plus, troisième meilleur salaire.
Non, mais en vrai, c'est un scandale, en vrai. C'est un scandale. C'est un scandale, mec, il est... Ouais, mais vas-y, lâche, enfin, envoie-le ailleurs, je sais pas, vas-y.
Alors,
mais
j'ai vu justement qu'il y aurait...
qui joue pas, ça casse les couilles. Ouais.
Il y aurait potentiellement une porte de sortie qui se dessine pour Evan parce qu'ils veulent faire quelque chose de Quentin Grimes. Donc, soit le remplacer dans la rotation, mais je pense qu'en fait, Thibodeau n'en veut plus. Soit faire un package plus gros pour récupérer autre chose.
Non, mais là, il faudrait faire un package et que Fournier dégage. Mais le souci, c'est que 20 millions, t'imagines?
Ah, mais c'est dur à envoyer. 20 millions, c'est un mec qui joue pas depuis deux saisons, c'est chaud.
Là, je voyais qu'il y avait des mecs qui disaient, ouais, Evan Fournier, des Français qui disaient que ce serait cool qu'il arrive chez les Clippers pour compléter le banc, apporter un peu du shoot et tout. Sauf que là, les Clippers, avec ce qu'ils visent, vu comment la saison allait, avoir un mec qui a pas joué depuis deux ans, c'est chaud.
Clairement.
Je dis pas que j'adore Evan Fournier, et le profil en soi, il match, mais si t'as pas joué depuis deux ans, tu peux pas.
Mais ça fait deux ans qu'il a pas joué.
Il va faire comme toutes les anciennes stars françaises pour se relancer, il va finir à l'ASVEL.
Ouais.
Oh, super.
Attends, Fournier, Timothée, en fait, le ballon, il circule que sur deux joueurs.
Edwin Jackson.
Non, les stars françaises en NBA aussi, en général, elles aiment bien faire un petit trade du côté de Charlotte aussi avant de partir.
Ah oui, c'est vrai. Allez, va Charlotte.
Parker, Batum.
Il serrera la main à Théo Malédon sur le banc. C'est cool.
Allez. Nickel.
On va clôturer ce chapitre sur les sophomores et on a aussi eu des mauvaises nouvelles cette semaine puisque l'assistant coach des Warriors, Dejan Milojevic, est décédé hier après-midi. Les matchs des Warriors sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, c'est confirmé jusqu'à vendredi. Mais bon, je comprends que le groupe est sous le choc et que ça risque d'être compliqué côté Warriors. Voilà,
c'est
une
annonce un peu inattendue, quoi. Le mec,
ouais, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas s'attendre.
Je sais plus quel âge il a, mais...
46 ans. Il a fait un arrêt cardiaque, 46 ans, et il est décédé le lendemain.
Ça fait 3 ans qu'il était assistant.
Mais c'est pas son nom avant.
Non, mais moi non plus, mais ça fait partie il fait partie du staff depuis 3 saisons. Ça reste un membre important de l'entourage de Steve Kerr et des Warriors.
Pour Jokic, parce que je crois que c'est celui qui a coaché Jokic en Serbie pendant quelques temps.
Oui, c'est ça.
Et voilà. Donc, une triste nouvelle pour la NBA et pour le basket en général. On n'aime pas avoir ce genre de nouvelles. Voilà, les gars, c'est fini pour cette semaine.
Oh, c'est triste la fin, là.
Bah ouais, c'est comme ça. Écoute, de temps en temps, on est un peu secoué. C'est pas grave, on essaiera de vous mettre un peu de baume au cœur sur la prochaine émission.
Après, pour faire plaisir, c'est pour faire plaisir aux gens, on peut parler de LeBron, hein, juste pour finir, si vous voulez.
Non, mais ils en ont rien à foutre de LeBron, tu leur pètes les couilles à chaque émission pendant une demi-heure, là, donc c'est bon.
Ah, ils fatiguent.
Même moi, j'aime bien LeBron, je le déteste pas, mais je commence à être fané.
Mais je commence à détester à cause de toi, en fait. Horrible.
Moi, j'aime bien LeBron, mais à cause de Vincent, vraiment, je peux plus le voir. Dès que je vois un truc sur LeBron, faut que je l'envoie à Vincent pour se foutre de sa gueule.
Normal.
LeBron qui met ses chaussettes. Tu le vois au et là Vincent, mais t'as vu avec quelle délicatesse il met, on dirait qu'il a 18 ans.
Les chaussettes, elles sont incroyables. Putain, j'ai trop envie de sucer la bite.
Oh, ouais, ça a vraiment rien à voir, mais c'est pas
grave. Vincent, enlève la main de ton falzard, s'il te plaît.
Voilà, ça, c'est une fin plus marrante.
Allez, c'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Nous sommes également sur Twitter et sur Instagram @WakeUpNBA. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Salut tout le monde.